Aux États-Unis, on trouve le corps d'une femme au bord d'une route du New Jersey. Les enquêteurs doivent résoudre cette affaire à partir de quelques traces de morsures sur le corps de la victime. Un prédateur sadique s'attaque à des jeunes femmes dans une paisible ville du Canada. Les policiers travaillent d'arrache-pied pour le retrouver, d'autant plus que le meurtrier menace de faire de nouvelles victimes. Des pompiers de l'Indiana découvrent le corps d'une femme tuée dans son lit. L'empreinte des dents du meurtrier suffira-t-elle à le faire condamner? Certains meurtriers ne peuvent résister à l'envie de laisser une trace très personnelle sur leur victime. Heureusement, grâce à l'expertise d'odontologistes judiciaires, la police peut arrêter ces monstres au sourire meurtrier. Dans cette émission, certains noms ont été changés. Peu après minuit, le 12 août 1994, on dépêcha des policiers de Woodbridge, au New Jersey, dans un secteur isolé près de la route numéro 1. Melissa Padilla, 25 ans, à moitié nue et battue, avait été trouvée assassinée, gisant à l'intérieur d'un tuyau de béton. Les techniciens en scène de crime commencèrent à fouiller les lieux à la recherche d'indices. Ils trouvèrent, éparpillés autour du corps, de nombreux articles d'épicerie achetés depuis peu. Il y avait également un billet $1 taché de sang et quelques mégots de cigarettes qui permettraient peut-être d'obtenir un code génétique. On trouva le short déchiré de la victime taché de sang pas très loin. Une des poches contenait encore le reçu d'épicerie sur lequel était indiqué 23h29. Pendant que les techniciens poursuivaient leurs recherches, le petit ami de Melissa, Hector Gonzalez, qui avait trouvé le corps, fut conduit au poste pour un interrogatoire. Il ignorait qui avait pu en vouloir à la vie de cette mère dévouée de 4 enfants. Hector déclara qu'après avoir couché ses enfants vers 23 heures, Melissa était partie faire quelques courses à l'épicerie. Il avait accepté de rester chez elle pour surveiller les enfants. Elle devait revenir dans moins d'une demi-heure. Une heure plus tard, quand il constata qu'elle ne rentrait pas, il demanda à un ami de la chercher avec lui. C'est alors qu'ils avaient trouvé le corps de Melissa près de la route numéro 1 qu'elle empruntait toujours pour aller à l'épicerie. Hector accepta qu'on le soumette au test du détecteur de mensonges. Les résultats indiquaient qu'il n'était pas impliqué dans le meurtre de Melissa. Même si la police ne disposait d'aucun suspect, le mobile du crime était évident. Le lieutenant Lawrence Nagel, du bureau du procureur de Middlesex County, a travaillé sur cette enquête.
La femme que nous avons trouvée sur la scène était nue de la taille aux pieds. Son visage était couvert de contusions importantes. Notre première impression était qu'elle avait été victime d'un prédateur sexuel.
Lors de l'autopsie, le médecin légiste constata que Melissa Padilla était morte des suites d'une strangulation faite avec les mains. Son visage avait été sauvagement frappé. Même si, à l'évidence, elle avait été victime d'un viol, on ne trouva aucune trace de sperme. Fait troublant, il y avait de nombreuses contusions de petite dimension sur son corps. L'une d'entre elles, sur le menton de Melissa, ressemblait à une morsure. Comme ce genre de blessure pouvait jouer un rôle important dans l'identification d'un suspect, on les photographia. Un agent du bureau du procureur de Middlesex County s'assura de respecter les normes de l'Association des odontologistes judiciaires. Maintenant, Pour que ces traces de morsure aient la moindre valeur, les enquêteurs devaient trouver un suspect. Pour reconstituer les déplacements de Mélissa, les enquêteurs réquisitionnèrent la caméra de surveillance de l'épicerie où elle était allée juste avant sa mort. On pouvait clairement y voir la victime acheter les effets retrouvés près de son corps. Le montant remis par le commis était le même que celui trouvé dans les poches de son short. On n'y voyait toutefois aucun individu suspect. L'analyse des éléments recueillis sur la scène du crime ne produisit pas de résultats intéressants. Bien qu'il y ait présence d'ADN sur les mégots de cigarettes, il n'y avait aucun moyen de savoir qui les avait jetés là, ni quand. De plus, toutes les traces de sang provenaient des blessures de Mélissa. On chercha également des traces d'empreintes du meurtrier, mais sans succès. En dépit du manque d'indices prometteurs, la trace de morsure donnait un aperçu de la violence de l'agresseur. Thomas Kapsack, l'assistant du procureur du bureau du Middlesex County, participait à cette enquête.
La nature du crime suggérait que le meurtrier avait eu un accès de colère. La victime avait été brutalisée, elle avait beaucoup souffert. Lorsqu'il l'a mordue au menton, l'agresseur l'a regardée sans doute droit dans les yeux et il lui faisait sciemment mal.
Les policiers examinèrent les dossiers des criminels sexuels connus du secteur. La prison d'État se trouvait à seulement quelques kilomètres de la scène du crime. Quelques prisonniers avaient été remis en liberté depuis peu. Les enquêteurs retracèrent chacun d'entre eux. Ils nièrent tous être impliqués dans cette affaire. On les élimina un à un après les avoir soumis à un test polygraphique. Les enquêteurs examinèrent ensuite plusieurs dizaines de dossiers d'homicide pour trouver un cas similaire. Malgré tous leurs efforts, 8 mois s'écoulèrent sans que l'enquête ne progresse. Puis, en avril 1995, les détectives reçurent un appel de la police d'État du Maine. On voulait obtenir les antécédents judiciaires d'un résident de Woodbridge, Stephen Fortin, 31 ans, détenu provisoirement pour avoir agressé une agente de la patrouille d'État. Pour le lieutenant Nagel, cette attaque avait des allures de déjà-vu.
Au cours de la conversation avec l'agent de police du Maine, on a appris que la policière avait été mordue par Stephen Fortin exactement aux mêmes endroits que Mélissa Padilla.
Les enquêteurs espéraient que c'était le coup de chance qu'ils attendaient. Ils se rendirent dans le Maine pour interroger la policière hospitalisée. Ils remarquèrent immédiatement la trace de morsure au menton de la victime, à l'endroit précis où l'on avait mordu Mélissa. La policière, qui n'était pas en service au moment de l'attaque, leur raconta qu'elle avait aperçu une voiture garée au bord d'une route, dans le sens contraire de la circulation.
Open the window.
Elle se rendit à la voiture.
You having trouble with your car tonight?
Le conducteur lui dit qu'il avait des ennuis mécaniques. Elle s'aperçut qu'il sentait l'alcool.
Okay, stand right there. Okay, don't move. Don't move. Okay.
Elle soumit le conducteur à un alcotest et constata qu'il avait trop bu. Pendant que la policière appelait au poste pour obtenir des renforts, l'homme l'attaqua soudainement par derrière. Elle perdit connaissance. Quand elle revint à elle, elle était assise sur le siège du passager de sa propre voiture. Elle avait le corps endolori et comprit soudain qu'il l'avait violée pendant qu'elle était inconsciente. Elle croyait que son assaillant comptait la tuer et se jeta à l'extérieur de la voiture. L'homme poursuivit sa route. Elle se rappelait ensuite s'être réveillée à l'hôpital. Son agresseur, Stephen Fortin, fut mis en détention provisoire moins d'une heure plus tard. Après avoir examiné et photographié les blessures de la policière, il n'y avait plus de doute possible. Les deux attaques portaient la même signature rituelle.
Par rituel, on entend qu'il obtenait une gratification sexuelle en commettant son crime. Dans ce cas-ci, le rituel correspondait à la signature, c'est-à-dire les coups portés aux yeux, au nez, ainsi que la morsure au menton.
Pour les enquêteurs, de telles ressemblances entre les deux cas ne pouvaient être dues au hasard. Les policiers du New Jersey se rendirent à la prison de Kennebec County pour interroger Fortin relativement au meurtre de Melissa Padilla. Fortin reconnut qu'il vivait à Woodbridge, au New Jersey, au moment du meurtre, mais il déclara qu'il ne connaissait aucune Melissa Padilla et qu'il ignorait toute cette affaire. Il ajouta qu'il n'était jamais allé sur la route numéro 1, là où le corps de la victime avait été découvert. Il reconnut toutefois s'être bagarré avec la policière, mais il soutint qu'il ne s'agissait que de légitime défense. Les enquêteurs prélevèrent des échantillons de ses cheveux et de son sang pour les comparer aux indices recueillis sur la scène du crime. Même s'ils disposaient maintenant d'un suspect important dans cette affaire, ils avaient encore du chemin à faire avant de prouver que Stephen Fortin avait tué Melissa Padilla. À Woodbridge, au New Jersey, l'enquête sur le meurtre violent de Melissa Padilla, 25 ans, ne reposait que sur une trace de morsure. Après plusieurs mois d'attente, les policiers apprirent qu'une attaque semblable avait eu lieu dans le Maine, à plus de 500 km. Comme par hasard, le suspect Stephen Fortin vivait encore jusqu'à tout récemment à Woodbridge. Dans l'attente des résultats d'analyse génétique, les autorités du New Jersey interrogèrent les connaissances et amis de Fortin. Ils retrouvèrent son ex-petite amie qui vivait toujours à Woodbridge. Les mots pour décrire Fortin ne lui manquaient pas. Elle déclara qu'après une relation tumultueuse de 4 mois, ils s'étaient séparés abruptement après que Fortin l'eût brutalisé lors d'une dispute au cours d'une marche le long de la route numéro 1. Elle ajouta qu'après cette dispute, Fortin était venu lui présenter ses excuses. Elle avait alors remarqué des égratignures à son visage et à ses mains. Fortin lui expliqua qu'après leur dispute, craignant qu'elle alerte la police, il s'était enfui à travers bois. L'incident s'était produit le 12 août, le jour même de l'assassinat de Melissa. Grâce à cette déclaration, on savait maintenant que Fortin avait menti en déclarant ne jamais s'être trouvé sur la route numéro 1. Ce témoignage persuada les enquêteurs que Fortin était le meurtrier de Melissa Padilla. Malheureusement, l'ADN des mégots de cigarettes ne fournit pas de résultats concluants. Les experts examinèrent tous les indices à nouveau en espérant trouver autre chose, mais en vain. Pour eux, seules les traces de morsure pouvaient prouver l'implication de Stephen Fortin dans le meurtre de Melissa Padilla. En avril 1995, Stephen Fortin fut conduit au cabinet de Brian Morin, un dentiste de Waterville, dans le Maine. Pour prouver que Fortin avait bien mordu Melissa, les enquêteurs devaient d'abord obtenir un moulage de ses dents, mettant en relief tout détail exclusif à cette dentition. Puis, on photographia la dentition, une règle graduée au millimètre près juste à côté, pour pouvoir la comparer à la blessure de la victime. On prit ensuite les empreintes de ses dents du haut et du bas en utilisant du plâtre pierre, un produit plus dur que le plâtre de Paris. Une fois les moulages durcis, Morin élimine tout matériau excédentaire, ce qui permet aux analystes de discerner les caractéristiques uniques des dents. Pour procéder à leur analyse, les experts n'avaient besoin que des moulages et des photographies grandeur nature. Tom Richardson, odontologiste judiciaire à Portland, dans le Maine, nous explique comment il procède.
The molds of teeth are the casts.
Nous disposons d'un moulage des dents de l'individu, ce qui nous donne leur forme précise et leur taille. Nous disposons également des photos à l'échelle de la personne qui a été mordue. Nous superposons les moulages aux blessures sur la photo. Nous pouvons ainsi voir s'il y a concordance ou non.
À l'aide d'un logiciel informatique, les experts purent démontrer que les dents de Stephen Fortin correspondaient parfaitement aux marques de morsure sur le menton de la victime. L'écart entre les dents du suspect, la dimension des marques en demi-cercle des dents et les détails uniques de sa dentition concordaient parfaitement avec les blessures des deux victimes. Les enquêteurs disposaient maintenant de la preuve formelle de l'implication de Fortin dans le meurtre de Melissa Padilla. Les policiers croient qu'il a attaqué Melissa alors qu'elle rentrait de l'épicerie. Il était furieux à cause de sa récente dispute avec sa petite amie. Il s'est sauvagement abattu sur sa victime, la rouant de coups et la mordant à plusieurs reprises avant de l'étrangler. En février 2001, il a été condamné à mort au New Jersey pour meurtre et agression sexuelle grave sur la personne de Melissa Padilla. Il a également plaidé coupable des charges qui pesaient contre lui pour l'agression et le viol d'une policière du Maine. Il a été condamné à une peine maximale de 20 ans d'emprisonnement pour ce crime. Stephen Fortin éprouvait du plaisir à faire subir à ses victimes de brutaux rituels. À 5000 km du New Jersey, au Canada, dans une paisible banlieue de Vancouver, un tueur prenait un plaisir pervers à se moquer des détectives à sa poursuite. Abbotsford, en Colombie-Britannique, le 14 octobre 1995. À l'aube, on dépêcha des policiers à la salle d'urgence d'un hôpital. Melissa Connor, 16 ans, se remettait d'une violente attaque survenue quelques heures plus tôt. Melissa déclara aux policiers que son amie Tracy Sawyer et elle se rendaient à une fête quand un homme, un bâton de baseball à la main, était sorti des buissons et s'était attaqué à elle. Au cours de la lutte, Melissa avait reçu un coup et s'était évanouie. Quand elle reprit conscience, Tracy et l'assaillant avaient disparu. Même si les détails de l'attaque étaient confus, Melissa était certaine de n'avoir jamais vu l'homme auparavant. Les enquêteurs se ruèrent sur la scène à la recherche de l'autre jeune fille. Un seul indice témoignait de l'attaque. La boucle d'oreille de Tracy. L'inspecteur Rod Gale du service de police d'Abbotsford espérait obtenir des informations en ratissant le quartier.
Des témoins se trouvaient à proximité de la scène du crime. Ils avaient entendu des cris aux petites heures du matin, mais personne n'avait vu quoi que ce soit.
Les enquêteurs craignaient que Tracy Sawyer, également âgée de 16 ans, n'ait été enlevée, ou pire encore. Sans aucun suspect, le temps jouait en leur défaveur. On distribua à tous les postes de police de la région une description de l'adolescente et des informations relatives à son enlèvement. Quelques heures plus tard, un homme qui pêchait à la rivière Vedder remarqua quelque chose sur la rive. En se rapprochant, il comprit avec horreur que c'était un cadavre humain. Les agents de la gendarmerie royale du Canada qui répondirent à l'appel constatèrent que la jeune femme avait été sauvagement battue et violée. Ils fouillèrent la rive à la recherche d'autres indices sur son identité et celle de son meurtrier. Leurs efforts furent vains. Malgré tout, ils pensaient bien qu'il s'agissait de la jeune fille disparue d'Abbotsford. Voici le sergent Kevin MacLeod.
Le lien entre les deux événements était assez évident. Nous avions appris qu'une jeune fille avait disparu d'Abbotsford et nous avions trouvé une jeune fille morte dans cette autre localité voisine.
L'examen dentaire de la victime de la rivière Vedder permit de confirmer qu'il s'agissait bien de Tracy Sawyer. Le médecin légiste constata qu'elle avait été violée. Il remarqua également un traumatisme important infligé avec une arme contondante à la tête. Mais ce n'était pas ce qui l'avait tué. La cause officielle de son décès était la noyade. Les seuls indices sur l'identité de son meurtrier étaient des traces de morsures sur le torse de la jeune fille. On photographia soigneusement ces marques pour les conserver. On achemina ensuite ces photos au laboratoire d'odontostomatologie de Vancouver. David Sweet, un expert renommé dans le domaine de l'odontologie légiste, y examina les photos. En regardant les blessures infligées par les morsures, il s'aperçut qu'elles pouvaient peut-être receler d'autres indices.
Une nouvelle technologie venait d'être mise au point. Elle permettait de recueillir la salive à même la blessure. Ainsi, cela nous permettrait d'obtenir l'ADN de l'auteur du meurtre et de le comparer à celui d'un suspect potentiel.
Cette technique repose sur le principe que le suspect laisse parfois des traces de salive dans les marques de morsure de la victime. Comme on le voit ici, Sweet commence par humecter un coton-tige stérile avec de l'eau distillée. Il l'applique sur la morsure, réhydratant ainsi toute cellule de salive qui pourrait encore s'y trouver. Il utilise ensuite un coton-tige sec pour essuyer la blessure. Le coton-tige agira comme une éponge et absorbera les cellules hydratées qui contiennent l'ADN du meurtrier. Sweet effectua cette procédure sur toutes les morsures de Tracy Sawyer. Bien que son corps ait été submergé dans l'eau pendant un certain temps, il croyait pouvoir trouver assez de cellules pour obtenir l'ADN.
Le corps avait séjourné dans l'eau, mais la salive est un liquide collant qui adhère à la peau. Nous n'avons besoin que d'une quantité infinitésimale pour effectuer des analyses.
Le test fut concluant. On retrouva des traces de l'ADN du meurtrier. Maintenant, pour que cet indice soit valable, les enquêteurs devraient identifier un suspect. Un odontologiste judiciaire de Colombie-Britannique était parvenu à identifier l'ADN du meurtrier de Tracy Sawyer à partir d'une morsure sur son corps. Pour que cet indice ait la moindre utilité, les policiers d'Abbotsford devaient maintenant trouver un suspect. Ils rencontrèrent les parents de la victime. Selon eux, leur fille sortait avec sa meilleure amie le soir de sa disparition. Melissa Connor et elle se rendaient à une fête chez des amis du quartier. Elles avaient promis de rentrer tôt. Tracy semblait très heureuse à l'idée d'aller à cette fête. Selon ses parents, personne dans leur entourage ne pouvait s'en être pris à leur fille. En plus de diffuser certaines informations dans les médias, les policiers firent installer une ligne téléphonique réservée exclusivement aux éventuels témoins. Peu de temps après, ils reçurent l'appel d'un homme qui disait être le meurtrier de Tracy. Il décrivit en détail la morsure au torse de la victime.
Les seules personnes qui connaissaient cette information étaient celles qui avaient pratiqué l'autopsie, de même que les policiers présents lors de l'autopsie et l'équipe chargée de l'enquête. Pour avoir une connaissance aussi intime des détails de la scène du crime et de la morsure, cet individu devait être l'auteur du meurtre.
Les policiers retracèrent l'appel. Il provenait d'une cabine téléphonique. Ils se ruèrent sur les lieux, mais à leur arrivée, il n'y avait plus personne. Des techniciens se mirent à la recherche d'empreintes digitales. Malheureusement, le suspect n'en avait laissé aucune. Un peu plus tard, les téléphonistes du poste de police d'Abbotsford reçurent un appel du service d'urgence. Au cours d'une conversation enregistrée par la police, un interlocuteur s'était identifié comme étant le tueur. Il désirait savoir si les policiers avaient de la difficulté à le trouver. Il déclara ensuite qu'il n'était pas assez stupide pour laisser ses empreintes digitales sur un téléphone public. Il promit aussi de tuer à nouveau.
Il est plutôt rare qu'un criminel se mette à téléphoner à la police et menace de s'en prendre à une nouvelle victime. Il nous narguait en nous disant qu'il allait le refaire. Il disait « Vous ne pourrez pas me capturer, je vais le refaire ».
Les policiers étaient désespérés. Ils devaient arrêter le meurtrier avant qu'il ne s'attaque à quelqu'un d'autre. Ils rencontrèrent à nouveau Melissa Connor, l'amie de Tracy qui avait échappé à une mort certaine. Bien que sa mémoire ne fût pas complètement rétablie, elle tenta de décrire l'assaillant du mieux qu'elle pouvait à un artiste. L'homme était grand, de race blanche, il avait un début de calvitie et ses cheveux étaient brun-roux. Les informations qu'elle fournit permirent à l'artiste de dresser un portrait robot qui fut rapidement diffusé dans les médias. La presse surnomma le meurtrier le tueur d'Abbotsford. Quelques jours plus tard, une femme appela pour donner des informations. Elle avait reconnu l'homme du portrait robot. Il l'avait elle-même attaqué avec un bâton de baseball quelques mois plus tôt. Parmi les photos d'identification qu'on lui montra, elle choisit celle de John Heller. Pour la première fois depuis le début de l'enquête, les autorités disposaient d'un suspect. En novembre 1995, plus d'un mois après le meurtre de Tracy Sawyer, les détectives procédèrent à l'arrestation de John Heller chez lui. Il nia avec véhémence toute implication dans le meurtre. Après avoir pris l'empreinte des dents du suspect, l'odontologiste judiciaire David Sweet les compara aux morsures trouvées sur le corps de Tracy Sawyer. Les enquêteurs furent déçus des résultats de son examen.
Très rapidement, nous avons constaté que l'écart entre les dents et leur forme ne concordait pas avec les traces de morsures.
De même, l'échantillon d'ADN d'Heller ne correspondait pas à celui obtenu dans la salive prélevée à même la morsure de la victime. On raya son nom de la liste des suspects. Bientôt, les appels sarcastiques du tueur d'Abbotsford reprirent. Déçus, les policiers mirent un plan au point. Il devait bien y avoir quelqu'un quelque part qui connaisse le meurtrier. Ils décidèrent donc de faire diffuser les appels du tueur d'Abbotsford par les médias.
Le public a ainsi pu entendre toutes les particularités de la voix de l'individu qui nous appelait. C'était notre objectif. Les gens pouvaient également écouter l'enregistrement autant de fois qu'ils le souhaitaient en composant un numéro de téléphone relié au poste de police.
Ce plan allait porter fruit. Une femme qui avait écouté l'enregistrement se présenta à la police. Elle avait reconnu la voix. Les détectives lui firent entendre l'enregistrement une autre fois. Elle déclara que la voix ressemblait à celle de Terry Driver. Elle n'avait aucun mal à le reconnaître puisque c'était la voix de son fils. Ce dernier possédait un balayeur d'ondes de la police et il s'en servait fréquemment à la maison. Les détectives vérifièrent rapidement les antécédents de Driver. Cet imprimeur de 32 ans n'avait pas de dossier criminel. Il vivait avec sa femme et leurs deux enfants dans le quartier d'où provenaient les appels téléphoniques. Il fut convoqué à un interrogatoire. Driver nia être le tueur d'Abbotsford. Les détectives recueillirent des échantillons de ses cheveux et de sa salive pour procéder à des analyses d'ADN. On prit également des photos et des moulages de ses dents. Au laboratoire d'odontostomatologie judiciaire de Vancouver, David Sweet se mit en quête de points communs entre les dents de Driver et les morsures au torse de Tracy Sawyer.
J'ai fait un moulage très précis, grandeur nature, du bout acéré de ses dents. Je l'ai comparé aux photos qui étaient à l'échelle elles aussi.
David Sweet identifia suffisamment de caractéristiques uniques dans la dentition de Terry Driver pour en déduire qu'il s'agissait des dents qui avaient produit les marques de morsure sur le corps de Tracy Sawyer.
Certaines de ses dents étaient ébréchées. De plus, d'autres dents étaient irrégulières ou elles n'auraient pas dû se trouver là où elles étaient. Cela rendait sa dentition tout à fait unique. J'ai retrouvé les mêmes caractéristiques dans les morsures.
Mais la preuve irréfutable fut sans contredit fournie par l'analyse génétique. L'ADN de Terry Driver était le même que celui que Sweet avait extrait des morsures. La technique utilisée a permis à la police d'identifier un tueur sadique. Terry Driver fut arrêté et accusé du meurtre de Tracy Sawyer et de la tentative de meurtre de son amie Melissa Connor. En se fondant sur les preuves, les policiers d'Abbotsford croient que Terry Driver était un prédateur fou, mu par un besoin insatiable d'attirer l'attention. Le 14 octobre 1995, ce besoin s'est traduit de façon violente. Melissa Connor et Tracy Sawyer se rendaient à une fête lorsque Driver les a attaqués subitement. Après avoir cruellement violé et assassiné Tracy, Driver a commencé à narguer la police pour se prouver qu'il était invincible. En octobre 1997, il fut reconnu coupable du viol et du meurtre de Tracy Sawyer. Il a été condamné à la prison à vie. Il a eu droit à une autre peine de 10 ans d'emprisonnement pour la tentative de meurtre de Melissa Connor. Terry Driver n'a pas pu résister à l'envie d'attirer l'attention sur son crime. Dans l'Indiana, cette fois, un meurtrier allait se donner beaucoup de peine pour cacher sa culpabilité. Le 6 octobre 1990, à 23h37, des pompiers de Shelbyville se rendirent à un immeuble en proie aux flammes. L'incendie s'était déclaré dans la chambre à coucher d'une locataire du premier étage de 42 ans, Shirley Sturgill. Après avoir éteint le feu dans le matelas, un des pompiers fit une découverte macabre. Le corps carbonisé d'une femme. Une forte odeur de combustible laissait présumer que l'incendie était d'origine criminelle. Après avoir éteint un incendie dans un appartement de Shelbyville, dans l'Indiana, des pompiers avaient découvert les restes carbonisés d'une femme dans son lit. Selon le chef Kurt Etterton du service de police de Shelbyville, tout semblait indiquer qu'elle avait été victime d'un homicide.
Les flammes s'étaient d'abord déclarées sur le lit même ou autour. Sur les matériaux carbonisés, on pouvait voir des marques en forme de V inversée, ce qui est caractéristique lors de l'utilisation de combustible. Nous avions donc déjà le sentiment que cet incendie avait été provoqué à cet endroit précis.
Après s'être assuré que la victime était bien la locataire Shirley Sturgill, les experts en scène de crime se mirent à la recherche d'indices sur l'identité de l'incendiaire et le mobile de son crime. On trouva de nombreuses empreintes digitales qui furent recueillies et conservées. Des analyses subséquentes indiquèrent toutefois qu'elles provenaient toutes de la victime. Les enquêteurs recueillirent également des mégots de cigarettes de marques différentes. Par le biais d'analyses génétiques, on constata la présence de deux codes d'ADN différents de celui de la victime. Le ou les meurtriers de Shirley Sturgill n'étaient pas arrivés à éliminer toutes les pistes. Lors de l'autopsie de la victime, le médecin légiste constata que sa mort n'était pas imputable aux flammes, mais plutôt à la strangulation. Elle avait également été violée. Malheureusement, le fluide biologique recueilli s'était trop dégradé pour qu'on puisse en obtenir quelque chose d'utile. Et ce n'était pas tout. Il y avait de nombreuses blessures sur le torse de la victime, au niveau de son estomac et sur ses cuisses. Le médecin légiste s'aperçut qu'il s'agissait de traces de dents humaines. Cette découverte constituait l'indice le plus important sur l'identité du meurtrier.
On nous a enjoint de prendre les empreintes des dents de tout suspect. L'expert savait qu'il pourrait facilement déterminer qui avait laissé ces traces de morsure.
On commença la recherche du meurtrier de Shirley Sturgill en interrogeant sa fille. Angie Carr leur dit qu'elle était très proche de sa mère. Elle ne pouvait imaginer que quiconque ait pu lui en vouloir au point de la tuer. Sa mère était une femme généreuse et sensible. Elle n'avait rien ménagé pour assurer le bien-être et le bonheur d'Angie. Elle était aussi une merveilleuse grand-mère pour les jeunes enfants de sa fille. Angie avait parlé à sa mère au téléphone une heure à peine avant l'arrivée des pompiers. Cette dernière ne semblait pas préoccupée par quoi que ce soit. Les enquêteurs avaient trouvé des traces de dents sur la victime, mais ils ne disposaient d'aucun autre indice sur l'identité du meurtrier. Un an après l'homicide, l'affaire fut confiée au chef de police Bill Dwenger.
Ce qui m'est apparu intriguant, c'est à quel point quelqu'un pouvait ressentir de la colère ou de la rage pour infliger de telles blessures à une autre personne.
Après avoir réexaminé des dizaines de dépositions de témoins recueillies l'année précédente, Dwenger remarqua que plusieurs d'entre eux avaient fait état de la mésentente entre Shirley et son gendre. Même si cette situation n'avait rien d'exceptionnel, les enquêteurs décidèrent de rencontrer de nouveau la fille de Shirley, Angie, et son mari, John Del Carr. Ce dernier ne tenta point de dissimuler ses sentiments à l'égard de sa belle-mère. Il ne l'aimait pas et il lui arrivait souvent de se disputer avec elle. Carr trouvait que Shirley se mêlait de leurs affaires. Dans la soirée du meurtre, il déclara qu'il était en compagnie d'un vieil ami de l'armée venu lui rendre visite. Il n'avait pas vu Shirley ce jour-là. Angie corrobora l'alibi de son mari. On n'écarta pas John Del Carr de la liste des suspects, même si on n'avait encore aucune preuve tangible contre lui. Mais un mois plus tard, les détectives apprirent qu'il avait été arrêté pour le meurtre d'une jeune femme dans le comté voisin de Hamilton. Il n'y avait aucune morsure sur le corps de la victime, mais elle avait été violée et étranglée exactement de la même façon que Shirley Sturgill. Les détectives de Shelbyville se rendirent à la prison d'État pour y rencontrer John Del Carr et obtenir des indices éventuels. Le suspect refusa de coopérer et de répondre à leurs questions. Après quelques formalités, les enquêteurs obtinrent l'autorisation de recueillir des échantillons de ses cheveux et de son sang en vue de comparer son ADN à celui des indices de l'appartement de la victime. Au laboratoire judiciaire, les experts constatèrent que le code génétique de John Del Carr était identique à celui laissé sur un des mégots de cigarettes de la chambre à coucher de Shirley. John Del Carr s'était donc trouvé dans l'appartement de la victime, ce qu'il avait pourtant nié auparavant. Ces preuves indirectes ne signifiaient pas nécessairement qu'il était son meurtrier, mais elles avaient un certain poids. Il ne manquait qu'une chose avant de clore cette enquête. L'empreinte des dents du suspect et sa comparaison aux marques de morsure sur le corps de Shirley Sturgill. Jusqu'à maintenant, les enquêteurs n'avaient pas trouvé assez d'indices pour obliger le suspect à fournir l'empreinte de ses dents. Et pourtant, ils savaient que sans cette preuve, ils ne pourraient sans doute jamais le faire inculper. Le 3 août 1994, 4 ans après le meurtre, les enquêteurs eurent enfin un coup de chance. Angie Carr avait divorcé de son mari. Maintenant qu'il était derrière les barreaux, elle ne craignait plus de parler. Elle croyait que son ex-mari avait bel et bien tué sa mère. Elle reconnut avoir menti à la police auparavant par crainte de représailles envers ses enfants ou elle-même. Selon Angie, John était rentré très tard le soir du meurtre. Soudainement, il s'était emparé d'un fusil, l'avait pointé sur elle en lui disant qu'il avait fait du mal à sa mère. Il l'avait traînée de force dans la chambre des enfants, puis il l'avait menacée de la tuer, elle et leurs enfants, si elle révélait quelque chose à quiconque à ce sujet. Angie déclara aux policiers que John avait continué de lui faire les mêmes menaces au cours des mois suivants. Elle était persuadée qu'il n'hésiterait pas à les mettre à exécution.
Je crois que la femme de John Carr était littéralement terrifiée par lui. Elle savait de quoi il était capable. Elle a fait ce qu'il fallait faire pour se protéger elle et ses enfants.
C'était la chance que les détectives attendaient. Le témoignage d'Angie leur permit d'obtenir un ordre de la cour obligeant John Del Carr à se soumettre à un moulage de dents. Les enquêteurs contactèrent l'odontologiste John Kinney, l'assistant coroner de DuPage County, dans l'Illinois.
On m'a demandé de me rendre à la prison d'État pour rencontrer Carr à l'infirmerie, de prendre l'empreinte de ses dents et de recueillir tout autre élément dont j'aurais besoin pour procéder à une comparaison.
John Del Carr refusa obstinément de coopérer. Les enquêteurs demandèrent alors un nouvel ordre de la cour. Cette fois, on leur donna la permission de l'anesthésier pour obtenir les preuves requises.
Dans ce cas-ci, nous avons tenu compte de la malposition des dents de M. Carr. Ainsi, nous avons pu faire correspondre exactement l'empreinte et les marques de morsure.
Toutes les caractéristiques de la dentition de John Del Carr se retrouvaient dans la trace de morsure sur le corps de Shirley Sturgill. Il n'y avait plus aucun doute. Cette dent avait causé les blessures. Les policiers croient que John Del Carr en voulait à sa belle-mère de s'ingérer dans sa vie de couple. Le 6 octobre 1990, il s'est rendu chez elle pour l'affronter. À un moment donné, sa colère s'est transformée en rage aveugle. Carr a mordu, battu et violé Shirley Sturgill avant de l'étrangler. Il a ensuite mis le feu à l'appartement en espérant éliminer toute trace de son crime. En avril 1997, John Del Carr a été jugé coupable de meurtre au premier degré sur la personne de Shirley Sturgill. Il a été condamné à 60 ans de prison. Certains meurtriers ne peuvent résister à l'envie de laisser une marque personnelle sur la victime. Quand les policiers ne disposent que de ces indices, ils font appel à des odontologistes pour retrouver ces monstres au sourire meurtrier.